Les producteurs de lait du Bas-Saint-Laurent demandent au gouvernement fédéral une indemnisation pleine et entière. Des règles d'étiquetage obligatoires, de même qu'une réciprocité des normes de production. Vous aurez compris qu'on parle non seulement du dossier du lait, mais de la nouvelle entente concernant la gestion de l'offre. On va parler également de sondage, parce que ce qu'on apprend ce matin, c'est que au Québec, comme au Canada, si des élections fédérales avaient lieu aujourd'hui, le gouvernement de Justin Trudeau serait réélu. Guy Caron est en ligne. Bonjour, M. Caron.
Bonjour, M. Saint-Pierre.
M. Caron, bon, vous avez rencontré, à ce que je comprends, là, vous avez rencontré en tant que député de Rimouski-Neigette, Témiscouata-les-Basques, vous avez rencontré hier les producteurs de lait du Bas-Saint-Laurent pour les appuyer dans leurs revendications qui sont une indemnisation pleine et entière, des règles d'étiquetage obligatoires, de même qu'une réciprocité des normes de production. C'est bien ça?
Effectivement, dans une conférence de presse qu'on a eue à Rimouski.
Bien. Partant de là, du rôle d'opposition que vous jouez, quel est votre véritable pouvoir d'intervention dans ce dossier-là?
Ben, écoutez, avant la signature de l'entente de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique, on a constamment forcé le premier ministre à se prononcer sur la question de la gestion de l'offre. Et on lui demandait, dans le cadre de négociations, de protéger la gestion de l'offre de façon intégrale, comme il l'avait promis durant la campagne électorale. Il a toujours refusé de prononcer le mot intégral, et on comprend pourquoi, parce que la gestion de l'offre était un des pions que le gouvernement canadien a utilisé pour en arriver à une entente tout en amadouant le président Trump. Mais ça a des réelles conséquences sur nos producteurs locaux. Avec cette brèche à la gestion de l'offre, là, on parle de 3,9% de la production, qui s'ajoute aux autres brèches qui avaient été créées dans les autres ententes. On est rendu à près de 10% de la production laitière disponible au Canada qui va être de provenance étrangère. Et ça, ça a des impacts sur nos producteurs. On parle, au bout du compte, de l'équivalent d'un mois de production d'une ferme laitière. Ouais.
L'indemnisation pleine et entière, M. Caron, moi quand on me parle d'indemnisation pleine et entière, j'essaie toujours de me rattacher au fait que ce n'est pas d'argent virtuel qu'on parle, on parle d'argent réel, à moins que la Banque du Canada en imprime au fur et à mesure qu'on en a besoin. Mais quand on parle d'indemnisation pleine et entière, je me pose toujours, moi, la question, est-ce que ça se fait au détriment de quelqu'un? Parce qu'on est en train de déjeuner ce matin, on met du lait dans son café, on met du lait dans ses céréales, on va peut-être faire une recette aujourd'hui, on va cuisiner dans le temps des fêtes, on va avoir besoin de lait. Mais en même temps, je me dis, est-ce que la population, pour en compenser un, devient elle-même pénalisée à d'autres égards? Et ça, cette question-là, parfois, on doit la poser quand on parle d'indemnisation pleine et entière, et que vous, en tant que député, vous défendez ça?
Non, tout à fait. C'est une excellente question. Et c'était la beauté, et c'est toujours la beauté de la gestion de l'offre, parce que le Canada ne subventionne pas ses producteurs laitiers, contrairement aux États-Unis, contrairement à l'Union européenne, qui, elle, subventionne également ses producteurs. Nous, la gestion de l'offre fait en sorte que nous avons un système qui assure des prix à la production qui soient décents pour les producteurs et une stabilisation des coûts à la consommation. Aux États-Unis, on subventionne. Une étude de cabinet de Toronto a démontré qu'il y avait environ 22 milliards de subventions à l'industrie laitière aux États-Unis. La concurrence déloyale par rapport à nos producteurs, parce qu'au bout du compte, ce que les Américains vont faire avec leur part de marché, c'est dumper leur surplus parce qu'ils n'ont pas de système de gestion de leur production laitière comme nous l'avons ici. Maintenant, le fait que le gouvernement canadien a décidé de signer cette entente avec une brèche à la gestion de l'offre, de quelle manière est-ce qu'on peut aider nos producteurs à pouvoir évoluer de façon concurrentielle dans un marché qui est déstabilisé par ces subventions? Ben, là, on retourne en arrière et au lieu d'avoir une gestion de l'offre pleine et intégrale, il faut commencer à subventionner nos producteurs, ouais, comme ils le font aux États-Unis.
Ouais. Ça amène un coût économique dont il faudra également gérer les conséquences, si on veut, à moins que le gouvernement soit en mesure d'imprimer de l'argent aux besoins.
Ouais. Je voudrais, alors que dit les conservateurs, parce que c'est les conservateurs qui avaient premièrement négocié l'entente avec l'Union européenne, et lorsqu'ils étaient au pouvoir, ils avaient annoncé que les compensations pour les pertes subies par les producteurs laitiers en raison de la brèche auraient été de 4,5 milliards sur 10 ans. Ça avait été annoncé. Maintenant, les libéraux sont arrivés au pouvoir et eux, ce qu'ils ont annoncé, c'est non, ce ne serait pas 4,5 milliards, puis ce ne serait pas des subventions ou des compensations. On va plutôt prendre 250 millions sur 5 ans, donc au lieu de prendre 450 millions par année pour les distribuer, on va consacrer 50 millions par année pour 5 ans, et on va les donner dans le cadre d'investissements pour aider à la modernisation des installations. Et ce 250 millions, ben, il était disparu en l'espace de quelques semaines, enfin quelques jours, je devrais dire.
Ouais.
Et moi, je sais que des producteurs locaux du Témiscouata ont appliqué à 10h02 alors que le programme ouvrait à 10h en ligne, et on disait déjà que l'argent était épuisé.
Ouais,
ça fait
ouais.
que c'est pas un vrai programme de compensation.
Je comprends. L'étiquetage obligatoire, ça, je trouve que ça a plein de bon sens. D'ailleurs, on devrait, à mon sens, identifier très, très, très clairement ce qu'on a sur les tablettes qui provient du Québec, qui provient du Canada. Il me semble que ça devrait être clair. Il y a de plus en plus d'emballages ou d'étiquetages qui en font la mention, mais des règles d'étiquetage obligatoires, pour le lait, mais oui, pour le reste également, là.
Non, tout à fait, effectivement. Puis l'étiquetage, présentement, est optionnel. On a vu que ça crée des problèmes parce que, bon, l'entente avec les États-Unis a suscité les passions, particulièrement au Québec. Et il y a eu un grand mouvement de dire « je vais acheter québécois » ou « je vais acheter canadien » et non pas américain. Mais une compagnie comme, ou une marque comme Lactantia a subi les foudres des consommateurs puisqu'elle n'avait pas la petite vache bleue ou identification.
Ouais, ouais.
On pourrait aller vers un étiquetage obligatoire, effectivement, ça réglerait bien des questions.
Ouais. La réciprocité des normes de production, je présume que ça, c'est la réciprocité entre les États-Unis puis le Canada. J'ai un peu plus de difficulté à penser qu'on pourrait y arriver. En tout cas, certainement pas facilement.
Ben, vous avez raison, ça va être difficile, effectivement, mais je pense que, encore une fois, si l'objectif est de s'assurer que nos producteurs peuvent jouer sur un terrain de jeu égal, il va falloir commencer à au moins aborder la question, parce qu'on le fait pas dans le cadre des ententes commerciales. Et c'est le cas dans le lait, c'est le cas dans l'agneau, c'est le cas dans l'ensemble des productions où, pour des raisons de santé, pour des raisons d'environnement, nous soumettons nos producteurs à des normes environnementales, des normes sanitaires, que l'on n'exige pas des produits que nous importons. Et c'est en grande partie la raison pour laquelle l'agneau de la Nouvelle-Zélande, par exemple, ou l'agneau de l'Australie, lorsqu'il arrive ici, est beaucoup moins cher que l'agneau local, parce que les coûts de production sont plus élevés de par ces normes qu'on n'impose pas à ces produits-là. Et c'est la même chose dans le cadre du lait, dans le cadre du fromage. On fait beaucoup de cas de la question des hormones de croissance aux États-Unis qui sont permises alors qu'elles sont interdites ici. La question, c'est est-ce que nous pourrions importer du lait avec hormones? Dans la situation actuelle où il n'y a pas de réciprocité, c'est tout à fait possible.
En terminant, M. Caron, le bout de l'entrevue moins le fun, sondage, si des élections fédérales étaient tenues aujourd'hui, pour quel parti voteriez-vous? Et le NPD, là, c'est la débandade. Le NPD est à peine meilleur que le Parti vert du Canada. Au Canada, il y a 10,8% des gens qui voteraient pour le NPD. Au Québec, il y a 12,1% des gens. On est loin de la vague Jack Layton. J'ai l'impression que le turban de M. Singh vous fait du tort.
Bien, écoutez, les sondages, on est à un an des élections. Non, je vais vous admettre qu'on n'est pas là où on aimerait être. Cependant, quand on regarde les sondages, Nanos, qui est la firme qui se rapproche toujours le plus des résultats finaux au bout du compte, nous place à 19 à 20% au Canada. Donc, écoutez, les sondages, on peut prendre les sondages qu'on aime, ouais. Laisser les sondages qu'on ouais. aime moins. Je vais vous avouer qu'effectivement, on n'est pas là où on aimerait être, et puis on est en préparation ouais. pour la campagne électorale. Et un des éléments sur lequel on va mettre l'accent pour la campagne électorale, c'est la force des députés néo-démocrates. Vous vous souvenez, en 2011, on nous appelait une bande de cônes oranges, personne ne nous connaissait. Mais là, ça fait 7 ans que la plupart des députés québécois du NPD sont là. Les gens connaissent Ruth Hélène Brosseau, ils connaissent Alexandre Boulris. Je dirais que je suis assez connu maintenant au Québec et au Canada également.
Non, je comprends, mais c'est ça, là. Plus ils vous connaissent, plus que les intentions de vote baissent, là. La comparaison va des deux bords, mais je repose ma question, M. Caron, parce que vous l'avez vraiment, mais vraiment escamoté, là. Est-ce que le turban de M. Singh vous fait du tort? Et quand je parle du turban, je parle de ses positions par rapport aux signes religieux, par exemple. Ce qu'on a dit à son sujet par rapport à certaines liaisons qu'il aurait eues dans le passé, je vous pose la question directement parce qu'elle fait partie de l'historique du parti maintenant, là.
Non, tout à fait. Et je sais, je suis conscient qu'au Québec, c'est une difficulté. Et ça, on ne s'en cachera pas non plus. D'ailleurs, Alexandre Boulris l'a mentionné dans une entrevue il y a 2 jours dans la presse. Mais au-delà de ça, je pense que un problème fondamental que nous avons, c'est qu'il n'a pas été très visible. Au Québec, par exemple, il a fait l'émission Tout le monde en parle. Il avait assez bien figuré. Je pense qu'on avait eu d'excellents commentaires. mais malheureusement, on n'a pas su capitaliser là-dessus. Et c'est un peu la même chose à la grandeur du pays. Et le fait que M. Singh n'ait pas de siège présentement à la Chambre des communes ne l'aide pas non plus à se faire connaître. Alors, il y a des élections partielles qui devraient être annoncées éventuellement pour Burnaby Sud, là où il a annoncé qu'il se présenterait. Et s'il réussit à se faire élire, ben là, il y aura une plateforme au moins pour se rendre plus visible et pouvoir se faire connaître davantage des Québécois et des Canadiens.
Merci, M. Caron. Au plaisir d'une prochaine.
Merci, M. Saint-Pierre. Au revoir.
8h32, Guy Caron, député néo-démocrate de Rimouski, Neigette, Témiscouata, les Basques, à la Chambre des communes du Canada, d'ailleurs député depuis 2011. Les élections s'en viennent, ça va commencer à presser pour le NPD.